L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 24 décembre 1972, la veille des fêtes de la Nativité. Il est 15h30 au cœur de la cordillère des Andes. Dans quelques minutes, deux hélicoptères chiliens vont se poser sur les lieux d'un des crashs les plus mythiques de l'histoire. Un crash survenu le 13 octobre 1972, il y a 50 ans. Dans quelques minutes, un prêtre descendra de l'un des appareils et les 29 victimes de cette expédition seront absous. Ils iront bientôt rejoindre le ciel et leur créateur. 15h30, c'est l'heure H de mon histoire. L'homme d'église, grand gaillard barbu d'une quarantaine d'années, a rencontré hier les derniers survivants récupérés sur les lieux de la catastrophe aérienne. Il a vu leur regard terrifié, leurs doutes et les ravages du mal de la montagne chez la plupart d'entre eux. Tous se sont préoccupés du sort de ceux restés sur place. Enfin, de ce qu'il en reste. Tout en sous-entendu, certains évoquent déjà des pratiques impies. Poussé par les rescapés, le prêtre a demandé l'autorisation aux équipes de secours de retourner sur place pour y faire son devoir. Au terme d'âpres négociations, les conditions climatiques étant incertaines au cœur des géants de pierre, les responsables ont accepté. Heureusement, le grand ciel bleu du jour, accompagné d'un soleil resplendissant, ne laissant rien présager, une énième catastrophe. Les deux hélicoptères flottent au-dessus de la cordillère des Andes. La plus longue chaîne montagneuse continentale du monde s'étend au cœur de l'Amérique du Sud. Large de 700 km, longue de plus de 7000, son point culminant, l'Aconcagua en Argentine, touche du bout de sa pointe les étoiles et les dieux incas. Les deux appareils, dont le bruit des moteurs résonne contre la roche, finissent par arriver sur la zone. Contrairement aux autres passagers, le prêtre la découvre. Il survole l'épave afin de trouver une zone pour se poser. La neige virevolte. Leur point de repère devient de plus en plus visible. Ce qui un jour avait été un oiseau de métal uruguayen gît là dans la neige. Le nez de l'avion semble avoir disparu sous un manteau immaculé, terrible. La queue, elle non plus, n'est plus là. Reste une carcasse sans vie. Les hublots continuent de refléter les rayons du soleil et une partie de l'inscription sur le fuselage est toujours visible. Fuerza, Aérea, Uru. La fin du mot Uruguay n'a pas survécu au crash. Après avoir effectué des ronds et des ronds à vous donner la migraine, les appareils se posent enfin. Contact de la neige omniprésente, lourde, pesante. Les doigts du prélat se glacent, ses jointures se crispent. Sa première pensée va aux survivants de l'expédition. Mais comment peut-on survivre à pareil calvaire pendant près de 10 semaines? Aucune source de nourriture à des kilomètres à la ronde. Aucune possibilité de retrouver son chemin dans ce dédale de roches géantes et pointues. Un désert hivernal. Un tombeau de glace. Voilà dans quoi cette équipe de rugby amateur est tombée. 16 d'entre eux seulement ont survécu. Aucun des membres de l'équipage. Tant d'épreuves. Tant de souffrances. Les secours lui ont dit que 45 personnes étaient dans cet avion. Ainsi, de nombreuses âmes sont mortes ici, sans possibilité d'être honorées. Voilà que sa mission à lui, avec l'aide de Dieu, commence. La carcasse de l'avion, malgré son état, est toujours impressionnante dans son linceul blanc. À l'intérieur, les secours et le prêtre y découvrent des abris de fortune, des couvertures réparties sur ce qui reste des sièges desquels la mousse déborde, et des corps aussi, beaucoup de corps. Oh, certains ont gelé dans la neige et d'autres ne sont plus entiers. Tiens, ici c'est un mollet qui manque, puis là-bas c'est un bras. Ont-ils été grignotés par des charognards durant la nuit? C'est peu probable en si peu de temps. les propos des survivants, qu'il interprétait comme de la folie, ceux qui parlaient de la communion, le dernier repas du Christ, pouvait-il être vrai? Est-ce que les survivants auraient gardé la vie uniquement en se nourrissant des leurs? Non, il ne peut se résoudre à cette éventualité. Lui, l'homme de Dieu, méthodiquement, chassant ses pensées de son esprit, il prie. Après un premier recueillement devant chacun des corps qui jonchent son chemin, il les fait rassembler par les équipes de secours. Tous sont en piété. Lui, messager du Seigneur dans cet endroit si reculé du monde, il est le garant de la parole de Jésus, de son pardon et de sa miséricorde. Il lui faut maintenant trouver un endroit pour les enterrer, leur offrir le repos éternel. Toute la petite troupe se met d'accord et choisit une zone située sur un petit plateau attenant à environ 80 mètres de l'épave. Le transport des corps prend du temps. De la neige jusqu'aux genoux, les secours commencent à souffrir des effets du froid. Et pourtant, ils ne sont là que depuis 2 heures. Alors comment imaginer tenir 72 jours. Rassemblant ses esprits engourdis par le froid, le regard aveuglé par les reflets du soleil, le prêtre prépare sa cérémonie. Oh, personne n'aura de croix aujourd'hui, non. Encore moins de plaques funéraires. Alors, pour marquer les emplacements de chacun, les secours décident qu'ils planteront dans le manteau neigeux des affaires personnelles, des babioles. Et maintenant, devant cette vingtaine de petits monuments à la mémoire des disparus, l'homme d'église commence son office. Il n'a pour témoin que les différents secouristes. Déjà plus au loin, les pales de l'hélicoptère démarrent, signalent que le temps imparti est dépassé. Mais le curé s'en fiche. Avec ardeur, il loue le Seigneur, prie, conduit au ciel les disparus qui étaient croyants, soulage les autres du poids du trépas. Dans la neige, cette cérémonie est certainement la plus particulière qu'il ne mènera jamais. Enfin vient le temps de la clôture. Le bruit du vent dans ses oreilles, le son répétitif des moteurs des hélicoptères de l'armée chilienne l'appellent vers le départ. Le prêtre jette un dernier regard vers l'astre solaire qui descend dans le ciel. Le long des massifs des montagnes avoisinantes, sa lueur le réconforte et réchauffe sa foi. Les astres de la nuit pointent déjà le bout de leur nez et inlassablement, flocon après flocon, la nature reprend ses droits. Bientôt, les traces de la catastrophe ne seront plus pour la montagne qu'un lointain souvenir. Alors que le retour à la base s'annonce calme et sans la moindre péripétie, le prêtre profite de ce retour à la réalité pour fermer les yeux quelques minutes. Il ne prie plus, il n'en a plus la force. L'épreuve est derrière lui, mais la souffrance émanant de cette zone morbide l'a touché au cœur même de sa foi. Il lui tarde de retourner à l'hôpital pour réconforter les survivants et leur assurer que son devoir a été fait. Il lui tarde également de découvrir la vérité sur ces parties de corps manquantes. La perspective de cannibalisme qu'il ose à peine envisager le terrifie. Mais prisonniers de telle hauteur, que leur restait-il comme autre choix? Pour leur obtenir le pardon, ce prêtre va devoir les aider à expliquer comment l'inimaginable a pu se produire. Dieu est miséricordieux. Le peuple sera. Du moins, c'est ce qu'il espère. En descendant de l'hélicoptère kaki, cette fin d'après-midi, l'homme d'église n'a jamais été aussi heureux de retrouver la terre ferme. Il préfère de loin toucher le ciel du sommet de son clocher. La montagne, elle, est bien plus brutale, bien plus cruelle. Notre histoire commence le 12 octobre précédent. Nous sommes en Uruguay, plus précisément à Montevideo, la plus grande ville du pays, bastion qui s'étend le long de l'Atlantique Sud. Elle dispose d'un aéroport international qui fait la fierté du pays. Mais ce jour-là, au milieu des touristes qui affluent, chargent leurs bagages, les vident aussi parfois pour éviter des taxes supplémentaires, s'avancent des Golgothes. Leur musculature impressionnante, presque démesurée, fait beaucoup d'effets dans les couloirs bétonnés de la géante structure. Les All Christians de Montevideo, équipe de rugby à 15, s'avancent, passent les portiques et attendent patiemment d'embarquer. Les joueurs emmènent avec eux des proches, leurs femmes, leurs amis également. Le vol FAE 571 doit leur permettre de rejoindre Santiago au Chili, un voyage long de 1500 km, en avion quelques heures seulement. Sur le tarmac, le Fairchild, qui va les transporter, patiente sagement lui aussi. Les conditions météorologiques ne sont pas bonnes ce jour-là. Oh, rien d'insurmontable pour un pilote expérimenté, mais tout de même, ils annoncent sur leur trajet une belle et grosse tempête. Le colonel Julio Ferradas décide qu'il ne prendra aucun risque. Il va voir la situation en vol et, si besoin, fera une escale quelque part, une diversion. Il est pilote depuis assez longtemps pour savoir prendre les précautions qui s'imposent. Ceux qui l'accompagnent aujourd'hui en tant que membres d'équipage sont pour la plupart des connaissances de longue date. 4 autres militaires pour un vol de la force aérienne. Un lieutenant-colonel, un lieutenant et 2 sergents, que du beau monde. En marchant vers l'appareil 571, le mauvais temps qui arrive interroge le colonel. Survoler la zone impactée par la tempête relève de la folie. Une fois l'équipage et les passagers embarqués, après analyse de ce que les radars leur annoncent, ils se mettent tous d'accord. Ils feront une étape pour la nuit à Mendoza, en Argentine. Le match n'étant que le surlendemain, les joueurs aussi préfèrent prendre leur temps et avancer avec prudence. La ville de Mendoza n'est qu'à quelques heures de vol, mais déjà, la carlingue du 571 est particulièrement mise à l'épreuve. Elle ploie sous les coups de butoir du vent. Les hublots se couvrent de gouttes et bientôt, on n'y voit plus rien au dehors. Une heure après le décollage et alors qu'ils voulaient l'éviter, les voilà en plein milieu de la tempête. Les courants venteux se rendent coup pour coup. Mercure semble jouer avec ce petit avion de métal qui tente de se frayer un chemin entre les pièges dressés contre lui. Les divinités du vent peuvent bien lui jouer des farces. Le colonel qui dirige le 571 n'est pas le dernier des incompétents. Et c'est ainsi que l'avion, avec à son bord des passagers effrayés mais saufs, se pose sans trop d'encombre sur la piste tortueuse de l'aéroport de Mendoza. Prendre du repos et le temps de repartir, c'était la meilleure chose à faire, assurément. Pour autant, cette nuit-là, à l'hôtel, le pilote se réveille en transe, l'échine parcourue d'un frisson inhabituel, la fièvre nocturne qui l'assaille est pour le moins dérangeante. Il croit être victime d'un coup de stress émanant de cette journée de vol particulièrement harassante. Pour autant, ce n'est ni la première ni la dernière de sa carrière. Mais il ne peut s'empêcher de prendre tout cela comme un avertissement, une prémonition pour la journée du lendemain. Alors que la pluie dehors n'a pas cessé, que les voitures parcourent les rues sinueuses en tentant d'échapper au courroux de la nature, le colonel n'arrive plus à se rendormir. L'horloge affiche 2h35. Dans 4 heures à peine, il sera debout et devra visser sur sa tête sa casquette, lui conférant son autorité et son aplomb. Et ce soir, elle est posée sur la commode attenante et il perd toute confiance. Il refuse de se l'avouer, mais il a peur. Et il ne saurait dire pourquoi. Mais cette peur panique l'assaille. Plus encore, elle semble se matérialiser, là, dans le coin gauche de cette chambre sombre. Inutile de vous le préciser, mais les yeux fixés à cet endroit de sa chambre, notre colonel ne va pas retrouver une once de repos avant que son réveil ne vienne le tirer de sa torpeur. En saluant ses hommes d'équipage le lendemain matin, sa gorge est nouée de fatigue et d'appréhension. Mais une fois sa casquette vissée sur son crâne, son aura de commandant reprend complètement le dessus et chasse les mauvaises ondes qui semblent lui murmurer à l'oreille. Après les dernières vérifications, il met les gaz et l'avion, fringant comme Pégase, décolle. Santiago de Chili est proche. Les rugbyman, eux, pensent déjà à leur match à venir. Devant le temps particulièrement venteux de ce 13 octobre 1972, le colonel choisit de passer au-dessus de la cordillère des Andes, par le dénommé passage de Planchon, au sud de la ville de Mendoza. Le souffle, particulièrement violent et sans pitié, prend l'appareil de face. Ainsi, le temps de trajet est retardé. Mais les deux pilotes aux commandes ne savent pas exactement de combien de temps. Une fois ce passage franchi, Capo Nord et enfin Santiago et le Chili seront devant eux. « Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, » disent-ils, alors que les bruits contre la carlingue continuent de les terroriser. De l'autre côté du cockpit, l'ambiance n'est pas à l'affolement. L'équipe de rugby discute tactique. Fernando Parado écoute les consignes, jauge les différentes options. Il est l'un des joueurs les plus talentueux de cette équipe amateur, l'un des plus écoutés aussi. Il est un habitué des trajets en avion et ne craint pas les conditions difficiles qui frappent à l'extérieur des hublots. Bon, ce n'est pas le cas de tous, comme vous pouvez l'imaginer. Mais notre star du rugby local ne s'affole pas, rassure d'un regard, d'un geste. Il est l'un des phares dans les ténèbres. Au loin, il entend le copilote parler avec la tour de contrôle. Il annonce que le passage de Planchon est derrière eux et qu'il amorce sa descente. D'une oreille distraite, Fernando continue de suivre la communication et participe néanmoins activement à la conversation qui se déroule entre les joueurs. Ils vont gagner ce match. Il en a la certitude absolue. Soudain, sous ses pieds, il ressent que l'avion est en très légère pente inclinée. C'est presque imperceptible. Dans les hublots, pourtant, au travers des nuages, semblent se dessiner les pics rocheux et menaçants du passage. Alors même qu'il tente de comprendre le caractère opportun de ce mouvement du pilote, c'est le trou noir, le blackout. Il n'a pas vraiment le temps de réaliser ce qui lui arrive à ce moment-là. Le choc, l'aile droite arrachée, l'arrière du fuselage part en lambeaux, une partie de l'habitacle s'envole avec lui. Il perçoit les cris d'Esther, de Francisco, de Daniel et voit ses camarades se faire happer par le vide. Avant même de pouvoir hurler leur nom, un deuxième choc. Cette fois de son côté, à gauche. L'aile, elle aussi, vient de se faire déchiqueter dans une affreuse symphonie de bruits de métal et de cris. Fernando est encore là, lui. Son cœur est au bord de sa glotte. Il a l'impression qu'il va cracher ses poumons. La vitesse est telle que sa vision se trouble et sa perception des événements se réduit au maximum. L'instinct de survie, voilà tout ce qui subsiste. Dans une ultime respiration, le choc final. L'agonie de l'avion, puis le silence, le néant. Le nez de l'appareil vient de disparaître sous la neige d'un glacier. Ils sont à plus de 3600 mètres d'altitude, au cœur de la tempête et du froid constant. Seul avec pour ultime compagnon une carcasse de métal et les menaçants pics du passage. La mort, elle, s'est installée confortablement sur l'un des sièges du fond, patiemment. Elle attend.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons ensemble l'heure H de l'un des crashs les plus impressionnants de l'histoire de l'aviation, celui du FAE 571, celui qui acheminait une équipe amateur de rugby d'Uruguay vers le Chili. Les pilotes ont pourtant tenté d'échapper à la tempête en faisant escale la veille, mais le vent arrivant de face a ralenti l'appareil. Une erreur de leur part leur est fatale. Pensant avoir franchi le passage montagneux, ils accrochent l'un des derniers cols et s'écrasent dans la neige glacée des hauteurs. Pour les survivants, débute un incroyable parcours du combattant. Fernando Parado a une chance inouïe. Il fait partie des rescapés de ce premier volet de la catastrophe. Et ce n'est pas le cas de tous. Le colonel et trois autres membres de l'équipage sont morts dans le crash. Dans le cockpit de l'appareil, le colonel disparaît sous une épaisse couche de neige. Seul son second, le lieutenant-colonel, est encore en vie, mais dans un état qui ne laisse que peu d'espoir sur ses chances de guérison. Beaucoup d'autres ont suivi le colonel et son équipage dans la mort. 10 des passagers sont décédés, pour la plupart des joueurs ou des membres du staff, mais aussi 2 femmes accompagnatrices. Quelques cadavres, ou ce qu'il en reste, jonchent le plancher de l'habitacle. La plupart des dépouilles ont fini dans les airs et les survivants n'en retrouvent nulle trace. Fernando, lui, tente de rassembler ses esprits et d'organiser la résistance. Il dénombre les blessés et tente de créer une zone pour les regrouper dans la carlingue. Il entreprend de reboucher les trous pour que le vent, ce terrible ennemi, ne pénètre plus à l'intérieur. La neige, elle, sera sommairement déblayée autour de l'appareil. On fait le tour des provisions qui restent et on tente d'établir un processus de rationnement. Oh, certes sommaire, mais efficace. Le jour n'est pas encore tombé que déjà le spectre de la nuit et de ses difficultés à venir est dans tous les esprits. Le vent se lève, les nuages se forment et les étoiles qui semblaient naître finalement meurent. La lune monte dans le ciel tandis que l'astre solaire, seul allié des survivants, inévitablement se couche. Cette première nuit sera, pour Fernando et ses amis, un enfer que peu de mots peuvent décrire. Dans les cris et les plaintes des plus touchés, la faucheuse passe. Elle emporte dans les limbes et l'obscurité ceux pour qui l'espoir était maigre. Cachés entre les sièges, priant pour leur salut, tous sentent son souffle passer sur les nuques et maltraiter les esprits. Certaines plaintes se taisent, d'autres les remplacent. Puis, au bout des heures sombres, un silence. Serait-il annonciateur d'espoir ou de rédemption ? Non. Non, à l'aube, c'est la mort, la grande gagnante. Oh, le combat était presque perdu d'avance. Le lever du soleil du 14 octobre, très rouge, rappelle le sang qui a coulé toute la nuit. 3 joueurs de plus sont décédés et, peu avant midi, une des femmes qui avait survécu meurt à son tour de ses blessures. Le lieutenant-colonel, touché au dos et à la tête, n'a pas survécu non plus. Tous les membres d'équipage ont péri durant les 48 premières heures. Il ne reste donc plus que 2 femmes pour 27 hommes qui, comme vous pouvez l'imaginer, sont plus ou moins en bonne santé. Le deuxième jour commence et les 29 survivants des 45 passagers au départ tentent de s'organiser. Parmi eux, Fernando échange beaucoup avec le capitaine de l'équipe, toujours debout dans la tempête. Tous deux prennent en main le déroulé des opérations, continuent le rationnement de l'eau et des provisions. De quoi tenir quelques jours, tout au plus. Un peu plus d'une semaine, peut-être. Les secours, c'est certain, vont s'organiser et le retrouver rapidement. Certains des plus mobiles souhaitent s'élancer eux-mêmes afin d'aller chercher de l'aide. Dans les premiers jours, plusieurs fois, Fernando tente de coordonner des expéditions, mais leur amplitude est trop limitée. Cet espoir s'envole au contact de la réalité de leur malheur. Le poids de l'altitude, de la malnutrition et les différents maux de la montagne les empêchent d'avancer. En premier chef, la cécité des neiges est une catastrophe sans nom. Sans lunettes de protection, les ultraviolets qui se réverbèrent à la surface de la neige abîment la rétine et brûlent les yeux, si fragiles. Si la nuit est une ennemie mortelle, la journée n'a d'amis que le nom. Les premières tentatives sont donc vaines, mais les premiers jours restent pleins d'espoir. Les secours seront bientôt là et le rationnement de nourriture est pour le moment efficace. Oui, l'espoir est bien présent dans les rangs, le vent de la dissension ne souffle guère. Mais n'oubliez pas, la mort et le désespoir sont des adversaires des plus tenaces. « Voilà 8 jours que nos rescapés survivent, tant bien que mal, dans la neige et le froid. Susanna est morte ce matin, victime de ses gelures et du mal de la montagne. Toutes les larmes ne sont pas un mal, avait dit Fernando à ses amis qui pleuraient près du corps sans vie. Il avait raison. Cependant, quelques heures plus tard, son optimisme et son implacable droiture en prennent un coup. Une radio portative qu'ils avaient pu garder en état de marche annonce la fin des recherches pour les retrouver. Et là, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. En effet, le fuselage blanc de l'appareil est indétectable sur le tapis neigeux. C'est la raison pour laquelle les secours abandonnent. Depuis hier, les rations de nourriture sont épuisées. La mort les attend. Sa présence devient de plus en plus détectable, plus pressante. Au début, Fernando décide que les lanières de cuir des sièges de l'appareil pourraient les aider à tenir un peu. Mais leur traitement chimique les rend non comestibles. Et puis, le capitaine de l'équipe, fouillant à l'avant de l'avion, retrouve le corps du colonel, gelé par le froid. Personne n'ose dire ce qui leur traverse l'esprit. Mais tous y pensent. Soudain, une voix courageuse s'élève. C'est Roberto, deuxième ligne de l'équipe. Étudiant en médecine, il a déjà pratiqué des autopsies. Son coup de main est rapide, sûr. Alors avec pédagogie, sur la dépouille de ce pauvre militaire tué dans l'impact, il montre les gestes à effectuer à ses compagnons d'infortune. Quels gestes, allez-vous me dire? Eh bien, il leur enseigne le plus proscrit des tabous. La dernière éventualité, celle qui est, depuis toujours, la moins envisageable. Ce jour-là, toute humanité disparaît dans le froid de cette neige entourant la carlingue du FAE 571. Oui, Roberto, sous les yeux médusés de Fernando, leur enseigne comment découper un corps humain. Ils ont trouvé des lames de rasoir dans une valise et utilisent des éclats de hublot. Ainsi s'écoulent les jours suivants. On mange en premier lieu le chef de bord, puis les cadavres de leurs amis étendus là. Susanna, qui, il y a encore quelques jours, était parmi eux, sera une des suivantes sur la liste. Il n'y avait aucune autre issue. Manger pour survivre. Le cannibalisme comme salut. Il faudrait pouvoir protéger ce secret coûte que coûte si une expédition venait finalement à les retrouver, mais comment ? Certaines parties du corps ne seront pas mangées, les os et la peau non plus. Prétexter des attaques de prédateurs, si haut dans le ciel, ce serait pour le moins étonnant. Chassant cette pensée de son esprit, Fernando se rassure en se disant qu'il lui reste bien du temps pour répondre à cette insoluble question. Le sceau de la malédiction les a maintenant tous frappés de sa vigueur. C'est trop tard. Manger ses compagnons qui n'ont pas survécu, c'est se mettre à la merci d'une colère bien plus redoutable que le tortillement de la faim dans leur boyau. Celle de la religion, celle de Dieu. Croyants pour la plupart, ils se pensent tous condamnés. Et bientôt, un événement des plus malheureux ne va pas tarder à leur donner raison.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H de notre histoire se tient à 3600 mètres d'altitude, au cœur de la magnifique cordillère des Andes. C'est le lieu d'une des tragédies aériennes les plus terribles de l'histoire de l'aviation moderne, celle du FAE 571. Le désespoir a saisi les survivants, depuis qu'ils ont appris l'abandon des recherches menées par les autorités. L'espoir d'un sauvetage rapide s'envole avec la neige virevoltante et le lieu même du crash devient le théâtre d'une inconcevable tragédie. Les survivants, dans l'espoir infime de s'en sortir, commencent à se nourrir avec les corps de leurs compagnons décédés. Cette représentation d'une horreur indicible, inimaginable, n'est pourtant pas la seule catastrophe à venir.
Thank you.
sommes le 29 octobre 1972, soit 16 jours après le crash. Il est 2 heures du matin. Depuis plusieurs heures, le temps, d'abord menaçant dans la journée, semble s'alourdir. La peur se lit sur le visage glacé des survivants qui grelottent dans la carcasse, tentent de se réchauffer en se collant les uns aux autres. Fernando, lui, n'est pas loin du capitaine de l'équipe et de Liliana, la dernière femme. À l'extérieur, tout semble montrer que la tempête fait rage. La foudre tonne de plus en plus près des pics. On dirait que le vent porte une voix maléfique chantant au loin. Terrifiés sous l'orage, le vent, la neige, tous, même Fernando, prient. Mais quel salut peuvent-ils encore espérer alors que pour survivre, ils en sont réduits à briser les pires tabous? Oh, ils tentent bien de se repentir par la prière, mais certains d'entre eux n'y croient déjà plus. Plongés dans ses pensées, rongés par la culpabilité qui leur prend les tripes, Fernando et les autres ne peuvent anticiper le choc qui, subitement, vient les recouvrir de neige. Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est une avalanche. Mais est-ce que ce ne sera donc jamais fini? Fernando, ardemment, souhaite mourir. Mais le tapis de neige ne vient pas percuter son côté de l'avion. Lui, chanceux dans son malheur, ressort vivant de cette énième catastrophe. D'autres aussi parviennent à se libérer, enfin. Ils sont au nombre de 8. Mais où sont Liliana et le capitaine de l'équipe avec qui il échangeait il y a encore une heure? Eh bien, tous deux sont morts sur le coup. Ensevelis sous la neige et sous les décombres. Ils se sont éteints. Ultime réconfort. Aucun n'a souffert. Pour Fernando et les derniers rescapés, en revanche, la perspective de jours encore plus difficiles s'ouvre. L'avalanche aura eu un bienfait. Fernando retrouve dans la queue de l'appareil un appareil photo. Dès le 30 octobre, il peut alors immortaliser le quotidien des improbables survivants. La qualité des images, soumises au froid instable et aux rayons ultraviolets qui rongent les rétines, n'est pas des plus extraordinaires. Mais pour le moins, ils pensent pouvoir fournir au monde des traces de leurs derniers moments. Ils n'imaginent plus pouvoir se sortir de cette galère sans fin qui assaille son organisme. Le mal des montagnes fait rage chez la plupart d'entre eux. Cette maladie est due à la trop longue exposition au manque d'oxygène ressenti en altitude. Maux de tête, perte d'appétit, irritabilité et nausées sont les symptômes les plus graves, au-delà de la confusion et des essoufflements. Ainsi s'écoulent les jours, les nuits, les semaines. Et puis, rien. Pas un hélicoptère ne vient survoler la zone, pas une transmission radio ne pourrait leur faire penser qu'on est à leur recherche. Rien. Un néant aussi inquiétant que désespérant. Mais là encore, même sans le moindre espoir, ils s'accrochent à l'éventualité d'un improbable sauvetage, d'une énième tentative. Au fil des semaines, 3 nouveaux joueurs de l'équipe décèdent des suites des conditions extrêmes auxquelles le groupe est confronté. À plusieurs reprises, Fernando et Roberto tentent d'affronter la nature sauvage et les pics rocheux pour se frayer un chemin leur permettant de trouver de l'aide. Mais à chaque fois, c'est un échec. Et puis, l'hiver arrive et s'installe. 60 jours après le crash, Fernando et Roberto arrivent à convaincre leurs amis de lancer une ultime tentative. L'espoir réchauffe un peu la partie de leur cœur qui n'a pas encore succombé au froid. Les deux hommes ressentent la pression de la dernière chance. Oh, il est trop tard pour reculer. Les survivants décident à l'unanimité qu'ils seront 2 à partir. Mobiliser plus de personnes serait mettre en danger la faisabilité et la rapidité de la manœuvre. On leur attribue les vêtements les plus chauds, de quoi boire en suffisance pour un peu plus d'une semaine et surtout de quoi manger. Au fond de leur sac, des morceaux congelés de viande humaine. La chaîne de montagnes à l'ouest de leur position et la moins terrifiante, et aussi la zone où il sera possible d'avancer le plus rapidement. Mais le voyage qui démarre est des plus longs, des plus périlleux. 9 jours après leur départ, alors que ceux restés vers l'avion commencent à penser qu'ils ont péri, Fernando et Roberto réussissent l'impossible. La chaîne de montagne est franchie. Devant eux s'étale la vallée du Rio Azufre. Elle ressemble au paradis comparé à la zone du crash dont ils viennent. Les pieds usés, sanguinolents, les vêtements déchirés, la peau sale et les gelures par légion, ils suivent les sentiers à la recherche d'un improbable secours. Ils n'ont plus de provisions. Ils espèrent plus que tout croiser le chemin d'un humain. 72 jours. 72 jours qu'ils sont à la recherche de nouveaux visages, d'improbables espoirs. Et puis soudain, à l'orée d'un chemin moins escarpé, tout près d'un bosquet, un champ. Pas un champ jachère, non. Il a bien été cultivé récemment, ce champ. Et même mieux, au milieu de cette zone de culture, un homme se dresse là. Et les regarde, très intrigué. Sans attendre, il se précipite vers lui. Ce paysan est tranquillement en train de faire le tour de ses propriétés avant les fêtes de Noël. Il aurait pu prendre peur à la vue de ces deux morts-vivants et lancer vers lui. Mais au contraire, très prévenant, sans hésiter, il emmène chez lui les deux aventuriers qui viennent de réussir l'impossible. Maria, sa femme, leur sert des bols de soupe chaude et les invite à prendre une première douche. Beaucoup d'autres suivront. Le paysan, lui, part vite avertir les autorités centrales une fois leur histoire rocambolesque racontée. Le lendemain matin donc, le 22 décembre 1972, 2 hélicoptères de l'armée arrivent sur les lieux du terrible accident pour récupérer les derniers survivants. Tous sont hospitalisés directement pour des maux plus ou moins graves. Gelure, malnutrition, scorbut, mal aigu des montagnes, déshydratation sévère. La liste est longue, mais leurs jours ne sont plus en danger. Ils sont sauvés. Très rapidement, certains avouent aux infirmières et aux prêtres du début de notre histoire l'inimaginable consommation de chair humaine. À son retour de la zone, la veille de Noël, l'homme d'église leur enjoint de l'annoncer pendant la conférence de presse déjà prévue. Il leur faut faire le parallèle entre la communion, le dernier repas du Christ et leur acte de cannibalisme. Bon, c'est moins par conviction religieuse que par souci de tourner les événements en leur faveur. Ils ont néanmoins une absolution très spéciale, celle du pape. Paul VI, lorsqu'il apprend cette histoire, est horrifié. Mais là aussi, l'humanité profonde de l'homme de Dieu est plus forte. Il décide immédiatement de les absoudre de ce péché si tabou qu'il ne doit jamais être normalement évoqué. Pour le rescapé, c'est une nouvelle vie qui commence. Loin du tumulte de la cordillère des Andes. Tous se sont physiquement remis des séquelles laissées par la montagne. Mais s'ils sont guéris dans leur chair, leurs âmes, elles, n'ont jamais trouvé le repos. Fernando, l'un des héros de notre histoire, qui a perdu sa mère et sa sœur dans la tragédie, est toujours bien vivant, 50 ans après les événements. Aujourd'hui conférencier et motivation speaker, il tente d'apporter son expérience de survivant et sa force de caractère à ses interlocuteurs. Le bruit terrible des pics des Andes, cependant, résonne toujours à ses oreilles. Voilà pour ce récit terrible, vous en conviendrez, que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.